Bonjour à toutes et à tous, curieux et curieux du mardi et des mots qui transportent et font voyager entre cruauté et réalité vers des contrées où les espaces infinis ne se heurtent qu'aux nuages, au sable et à la mer, mais aussi moins poétiquement aux murs et aux armes. L'ouvrage dont nous allons parler aujourd'hui, dans cette onde très curieuse, est La dernière poignée de sable, un polar noir d'Ursula A. Il nous emmène entre crime et enquête anthropologique à la rencontre des enfants des nuages, le peuple sahraoui, dont le pays, le Sahara occidental, est la dernière colonie d'Afrique. Avec moi, Olivier, pour nous parler de l'histoire, celle avec un grand H, et du livre, la petite histoire du livre, et Mohamed, qui est au Sahara occidental, pour nous parler de comment on vit là-bas, et cela via la fragile magie des ondes.
Oui.
Et cela grâce aussi à Sylvain, à la technique et à la bienveillance.
Sans qui nous ne serions rien.
Exact. Mais avant cela, on est mardi et l'agenda, c'est Olivier. À toi, mon cher.
Merci, Marie. Oui, un petit agenda avant d'attaquer les choses plus lointaines, mais en même temps si proches. Alors, dans les jours qui viennent, c'est la fête nationale de la nature, les 22, 25 et 26 mai. Cette fête de la nature, elle se célébrera au Muséal d'Alba la Romaine, avec déjà, mercredi 22 mai, la cabane aux curiosités de Lillibois, un spectacle pour les enfants de 0 à 6 ans, accompagné de leurs parents naturellement. C'est autour des objets ramassés dans la nature. Le mercredi 22 mai, déjà petit voyage, mais pas du tout du même côté, les violons de Prague seront le soir à l'église Saint-Laurent d'Aubenas pour interpréter Mozart, Vivaldi, Paganini, le virtuose du violon, et Handel, le trop oublié de la musique classique. C'est l'ensemble à cordes, donc, des violons de Prague, mercredi 22 mai à Saint-Laurent à Aubenas. Les tarifs, ça va de 22 à 37,5 euros. À la médiathèque de Montpezat sous Boson, eh bien, ça sera de nouveau la fête nationale de la nature du 22 au 26 mai. C'est dans ce cadre que mercredi 22 mai à 18h, nous aurons, donc à Montbeza, sous Beson, à la médiathèque, pardon, hein, nous aurons mercredi 22 mai à 18h, la projection du film Homo Botanicus de Guillermo Quinero. Et vendredi 24 mai, toujours à 18h, Le végétal dans l'architecture, une conférence de Yvan Balpe. Tout ça, c'est suivi d'un échange avec le public, entrée libre. Mercredi 22 mai, escale du Parentibule à Saint-Alban-Auriol. C'est de 9h30 à 12h dans le cadre de l'école élémentaire, donc de Saint-Alban-Auriol, un moment convivial avec des professionnels de la petite enfance. Alors maintenant, événement. À mon sens, j'en ai pris connaissance hors antenne, tout petit peu avant de débarquer, un événement qui me paraît de la plus grande importance, puisque jeudi 23 mai à 18h30, à la médiathèque intercommunale des Vences, sera reçu par la librairie, et puis la librairie La Belle Oursette et la médiathèque intercommunale, on recevra Isabelle Cohen pour son livre « Revenir ». Raconter. Isabelle Cohen est née en 1954. Elle vit en Ardèche depuis 1985. Elle y a créé l'association La Ruche au Livre et elle participe beaucoup. Elle a participé à la création de la médiathèque où elle viendra présenter donc Revenir raconter, un livre où elle raconte la vie de sa mère qui a été déportée à Auschwitz le 24 janvier 1943 dans un convoi à majorité composé de femmes résistantes. Il y avait parmi ces femmes Charlotte Delbault, née en 1913, morte en 1985, mais elle aussi donc déportée à Auschwitz, une résistante qui sera ensuite écrivaine et en particulier auteure de pièces de théâtre. Elle est connue, Charlotte Delbault. On nous parlera tout ça, c'est-à-dire plus exactement Donc, Madame Cohen nous parlera de tout ça à la médiathèque intercommunale des Vences, jeudi 23 mai à 18h30. Venez entendre parler de ce livre qui, ni témoignage, ni biographie, travaille un petit peu quand même comme un témoignage du passé, une utilisation de ce témoignage du passé pour la vie présente, et puis peut-être, pourquoi pas, se dessiner un avenir. Tout ça, vous le saurez si vous venez le jeudi 23 mai à 18h30 à la médiathèque intercommunale des Vences. Je termine avec deux dates. Le vendredi 24 mai à Chandolas, conférence débat, le bonheur et dans la garrigue, et jusqu'à quand? C'est à 19h30 et c'est organisé par le collectif Garrigue Vivante, vendredi 24 mai, Chandolas, 19h30. Toujours le 24 mai, et je m'arrêterai avec ça, c'est au château de Johannas, un duo batterie-piano, ça me paraît intéressant. C'est à 19h au château de Johannas, à 19h, 24 mai, et c'est une entrée à 5€ gratuit pour les moins de 12 ans. Il y aura buvette. Et voilà. Et moi, j'en ai fini avec les annonces.
Eh bien, merci beaucoup, Olivier.
Mais je t'en prie, Marie.
Très beau sport. Nous écoutons une musique avant la suite. Et je dis, qu'est-ce que c'est? C'est Aziza Brahim et c'est Calieste Tarla. C'était donc Aziza Brahim, Calieste et Tarla, les villes, les rues de Tarla. Nous sommes avec Olivier donc.
Oui, je suis toujours là.
Tu es toujours là. Et le livre La dernière poignée de sable, Mohamed, tu es là? Allô?
Oui. Allez, bonjour.
Bonjour, tu nous entends bien? Super. Ouais. Donc Olivier va nous présenter le livre,
oui,
l'histoire et le livre, ouais. Et ensuite nous échangerons avec Mohamed.
Oui, je vais essayer de pas être trop long, mais en fait, je fais un peu d'une pierre deux coups parce que le livre d'Ursula A., La dernière poignée de sable, publié à Absos Éditions, est un très bon roman policier, un thriller noir, effectivement vraiment passionnant, de 300 pages qui passent comme ça, mais qui est en même temps qu'un roman passionnant, une présentation de la situation dramatique, pour ne pas dire tragique, du peuple sahraoui au Sahara occidental. Cette histoire, elle commence à être longue, puisqu'elle est le résultat d'une décolonisation qui n'en finit pas. Une décolonisation qui commence avec le départ des puissances coloniales européennes. La France laisse le protectorat du Maroc en 56 en même temps que l'Espagne. La France abandonne, on sait comment, l'Algérie enfin en 62. La France avait déjà abandonné, laissé à son propre destin, la Mauritanie en 1960. Et il restait les Espagnols au Sahara occidental qui s'accrochait d'autant plus volontiers qu'en Espagne, c'était le général Franco qui mettait un peu de temps à mourir puisqu'il n'est parti qu'en 75, c'est-à-dire un an après la révolution des œillets qui nous avait débarrassé de Salazar au Portugal. Les Portugais qui eux-mêmes avaient beaucoup de mal à se dépatouiller de l'Angola et du Mozambique en particulier. Donc nous voilà avec une nouvelle équipe, le Maroc, le Sahara occidental et le peuple sahraoui. Et pourquoi c'est une histoire coloniale qui n'arrête pas, qui ne finit pas? Et parce que il semblerait que le Maroc ait pris de bonnes leçons auprès des Espagnols et des Français pour poursuivre la colonisation du Sahara occidental. Voilà. Donc, fabrication d'une marche verte, courant à la main en direction du Sahara occidental pour en prendre possession au moment donc où le peuple sahraoui est laissé à son destin, et formation donc évidemment du Front Polisario, Front de libération du Sahara occidental en parallèle. Un mur fabriqué aussitôt, presque aussitôt par le Maroc, 2 700 km, un mur de sable, 2 700 km, surarmé, une centaine de milliers de soldats, des postes de contrôle très régulièrement parsemés, et puis des champs de mines de part et d'autre pour être bien sûr que chacun reste non pas chez soi, mais au Maroc. Donc, bon, c'est assez, je rigole, mais c'est pas drôle du tout dans la mesure où ça permet au Maroc d'organiser le pillage systématique du Sahara occidental, de ses richesses naturelles, je pense en particulier aux phosphates et aux poissons qui est dans la mer, il doit y avoir 800 km de côte au moins, avec l'Atlantique, et puis des perspectives évidemment, à terme peut-être, d'exploitation du pétrole, du gaz, aller savoir. Le peuple sahraoui, lui, ben, s'est réfugié dans le sud-ouest de l'Algérie. Ils sont, selon le HCR, au moins 165 000 sous la tente, et puis les autres ben, sont dans le Sahara occidental occupé, et puis à différents endroits comme la Mauritanie. Puis il y a une diaspora sahraoui. Au total, le peuple sahraoui, pratiquement 1 million de personnes, si je ne m'abuse, et voilà donc cette situation de dépendance. C'est de cette situation de dépendance que Ursula A. s'est faite en quelque sorte l'écho dans son roman. Elle nous présente un personnage, Sam, anthropologue, Sam Boroka, anthropologue de son état, qui est recruté par l'ONU, qui a au Sahara occidental une mission. C'est la mission des Nations Unies sur le référendum au Sahara occidental, le référendum qui est en suspension, on ne sait pas où, depuis 50 ans. Et donc, Sam est recruté à l'ONU par Vincent, qui est retrouvé, malheureusement, assassiné chez lui à Genève, alors qu'il était de retour précipité des territoires occupés. On découvrira pourquoi dans le roman. Ce roman a pour moi présenté l'avantage de donner, de faire le point en quelque sorte sur la situation d'exploitation des ressources naturelles du Sahara occidental, la situation d'atteinte systématique aux droits de l'homme dans le peuple sahraoui, et puis un élément que j'avais un tout petit peu zappé et qui est presque un élément du pouvoir marocain, qui est le réseau mafieux, qui a étendu ses tentacules en quelque sorte sur l'ensemble du Sahara. Un réseau mafieux dont le principal nerf, semble-t-il, est une chose commune au Maroc, la corruption qui occupe tous les étages de l'économie, le primaire, le secondaire, le tertiaire, à tous les niveaux, du petit agent de police au bord de la route jusqu'au roi Mohamed VI lui-même. Donc, ce roman d'Ursula A présente ce double bénéfice de donner une situation assez complète, un descriptif assez complet, pardon, de la situation là-bas dans une histoire palpitante.
Waouh,
N'est-ce pas?
ça donne envie de lire.
Ben oui, ben moi j'ai lu ça ces jours derniers et j'étais pas déçu de la manœuvre.
D'accord. Mohamed, est-ce que tu peux...
Oui, ça. Oui, bonjour.
Bonjour. Tu pourrais nous dire qui tu es, où tu vis, ce que tu fais
Ah
là-bas?
oui. Ah, merci beaucoup. Alors, tout d'abord, je suis un militant sahraoui pour le respect des droits de mon peuple. Les autorités d'occupation marocaines utilisent tous les moyens possibles pour nous empêcher de mener notre combat. Intimidation, discrimination, humiliation, arrestation, interrogatoire répété, espionnage, coupure de téléphone et électricité, encerclement de nuisances par la police, etc. En fait, je suis né le 6 décembre 1975, un mois avant l'invasion militaire du Sahara occidental. Mon père a disparu le 27 février 1976. C'est la date de la déclaration de l'ARAST, la République arabe saharaui démocratique. Il a été enlevé et emprisonné dans une prison secrète marocaine, où il est mort en 1977, sous la torture. Ma mère et mes aînés ont également connu du période de disparition forcée et de la torture. En 1999, lors de la première intifada, j'ai fui à Rabat. Pour échapper à la répression, là, j'ai décidé d'apprendre l'anglais et l'allemand pour défendre notre cause internationale. La même année, après la mort de Hassan II, le roi du Maroc, le Maroc a créé une instance pour la réconciliation, etc., juste pour la propagande. Alors, lors de l'intifada de 2005, nous étions plus nombreux pour transmettre l'information vers l'extérieur. Notre stratégie était facilitée par le développement d'Internet à l'époque. La même année, le 7 mai 2005, l'association sahraoui du victime des violations graves des droits de l'homme, ASVIDH, a été créée par des militants sahraouis, des gens qui ont rescapé des bons secrets, etc. Je suis devenu membre actif de sa création. Cette association défend les victimes des violations des droits de l'homme, comme j'avais dit, par les autorités marocaines. J'ai commencé à utiliser le rudiment de français que j'avais appris à l'école et à m'entraîner sur Internet. Les échanges avec les militants français m'ont aidé à utiliser cette langue dans un contexte quotidien. En septembre 2007, à cause de mes activités à résistance, j'ai perdu le travail que j'occupais depuis 2005 pour la municipalité de Lyon. Tant que responsable technique d'éclairage public, j'étais aussi le chef de parc d'entretien. Cette décision est tombée après ma participation à la sixième session du Conseil des droits de l'homme à Genève, sachant que tous les emplois me seraient désormais inaccessibles. J'ai repris des études universitaires grâce au soutien de ma famille et mes collègues. J'ai entrepris un cours d'histoire à l'université de Fès au Maroc. En 2009, et ça c'est l'important, nous avons créé l'équipe média, donc un collectif de journalistes sahraouis, ou bien une plateforme, et j'en suis le coordinateur. Donc ce sont des journalistes autodidactes et bénévoles, travaillons pour faire sortir des informations du territoire occupé. Nous traduisons nos textes pour qu'ils soient accessibles en langue occidentale, notamment en français. Car c'est avec cette langue que les Marocains montent au monde sur la situation dans notre pays occupé. En 2010, avant la construction du conduit des musiques, j'ai participé à un colloque à Alger sur le droit des peuples.
Oui, le camp de Gdemizik, tu nous expliqueras après ?
Oui.
D'accord.
Alors, oui.
Donc, tu as participé à un colloque juste avant le camp de Gdemizik ?
Oui, oui. Donc, à mon retour à l'aéroport à Laayoune, j'ai été violemment attaqué par un policier marocain. En fait, une dizaine de policiers m'ont frappé, ils m'ont donné des coups à tout mon corps. J'ai été soigné dans une ambulance. J'étais accompagné de l'acteur espagnol Willy Toledo, qui a tenté d'enregistrer les assauts avec son téléphone avant d'être également attaqué. Donc, Gdemizik, c'était un camp qui a été établi ou bien crié par des milliers de Sahraouis qui sont fuis juste à 17 km d'après ici.
De la ville de
Laayoune. De Laayoune, oui. J'habite à Laayoune, c'est la capitale occupée du Sahara occidental. Alors, des milliers de Sahraouis se rassemblent dans ce camp pour protester contre la marginalisation, l'intimidation et pour aussi rappeler les Nations Unies à ses engagements envers le peuple sahraoui pour l'organisation des référendums et pour rappeler aussi le droit inaliénable à l'autodétermination. Comme vous le savez, c'est un droit qui n'est jamais qui est garanti par le droit international.
Inaliénable.
Alors oui. Alors après un mois, le Maroc a attaqué. Donc l'armée marocaine est intervenue brutalement contre des milliers de Sahraouis pour brûler les tentes et l'arrêter des dizaines de Sahraouis. Et voilà, donc c'est une femme misérable. Il y avait plus de 4 Sahraouis, 25 Sahraouis qui sont morts. Et voilà, il y a des autres qui ont été emprisonnés. Et jusqu'à maintenant, ils ont condamné à perpétuité et avec des lourdes verdicts. Il arrive jusqu'à entre 20 ans et à la perpétuité.
Et condamnation, oui. Des militants sahraouis qui étaient dans le camp de Gdemizik.
Oui. Alors, en juin 2011, j'ai obtenu une licence en histoire et civilisation à l'université Si Mohamed Ben Abdallah à Fès, avec mention bien.
Et oui.
Selon l'instance équité et réconciliation qui a été créée par les autorités d'occupation, j'ai droit à emploi de fonctionnaire ainsi que d'émissaire, etc. Alors, j'ai obtenu un travail en tant que professeur ou bien enseignant de l'histoire dans un lycée.
Alors,
là aussi, à Laayoune, oui. Là aussi, j'ai découvert qu'il y avait aussi une crème contre les Sahraouis parce qu'ils ont falsifié l'histoire avec des manières. Et j'ai vu aussi la discrimination contre les étudiants Sahraouis que j'avais subi quand j'étais petit, donc à l'époque. Donc, il n'y a rien changé. Il y a la même, donc, comment on dit, politique systématique, si vous voulez dire, si vous me permettez de...
Vas-y.
Oui. Oui, et voilà, donc je dis aussi que dans l'équipe Midien, on garde de parler, on fait aussi le journalisme et on essaye d'éviter la propagande. C'est-à-dire, on garde d'écrire, par exemple, des lettres d'information et on publie par Internet. Et pour cela, on a reçu aussi beaucoup... des crédibilités, d'après beaucoup des agences de presse internationales.
Crédibilité.
Voilà. Oui. Ouais. Et comme cela, voilà. Donc l'équipe média a gagné beaucoup de choses, c'est-à-dire des prix au niveau international sur la manière qu'on a écrit les lettres d'information et les dépêches d'après les territoires occupés. Et on travaille aussi avec des journalistes et avec des observatoires qui ont essayé d'accéder, bien d'arriver au Sahara occidental, tant que le Maroc a empêché tous les observateurs et les journalistes de venir donc publiquement.
Donc,
Alors, d'une
quand
manière clandestine.
il y avait des journalistes qui voulaient venir au Sahara occidental, vous les avez accompagnés pour qu'ils puissent voir les choses quand même et pas être expulsés tout de suite, c'est ça que tu dis?
Exactement, mais d'une manière maintenant clandestine, là, parce
Oui,
que
clandestine, oui.
le Maroc, oui. Donc voilà, il n'est plus accepte par exemple les visites voilà, du journaliste bien, qui en a du doute entre deux lumières, qui ne font pas comme on dit, accepter de faire la propagande pour le Maroc.
Oui, vous
Alors,
essayez de faire de l'information,
oui.
des choses et des faits qui se passent au Sahara occidental et qui ne se trouvent pas dans les médias marocains. C'est ça?
Exactement, ouais,
Ok.
exactement. Mais l'important pour nous, c'est que l'équipe média aussi travaille avec des organisations internationales, aussi fait des dépêches pour les ressources naturelles, ou bien le pillage systématique des ressources naturelles par le Maroc et par diverses entreprises internationales. Parce qu'ils ont des conséquences dévastatrices, comme on dit,
Oui, tout à fait.
dévastatrices, oui, sur le peuple saharaui et
Ouais,
sur la vie.
j'aurais voulu justement pas séparer du tout, mais aborder les deux points. Donc il y a la dimension droit de l'homme et droit du peuple sahraoui, c'est une chose. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, il y a une mission des Nations Unies pour le référendum sur le Sahara occidental, qui est, comme je le disais dans ma présentation, un petit peu en l'air, comme ça. D'après vous, pourquoi est-ce que ce référendum n'est finalement pas organisé alors que 1 million de Sahraouis n'attendent finalement que ça pour pouvoir s'auto-déterminer? Pourquoi est-ce que ce référendum n'a pas lieu?
Ouais, tout simplement, Olivier, tout simplement parce que le Maroc, elle craint, par exemple, le résultat d'avant. Alors, parce qu'elles connaissent très bien que les Sahraouis, même les colons marocains, c'est qu'ils participent selon le plan Bekaa 2, parce qu'il a donné aussi le droit à tous les Marocains qui sont résidés au territoire occupé avant 1999. Alors, donc,
Le
les
droit de
autorités
vote.
marocaines, elles craignent aussi le résultat de ce référendum.
Mais
Ah donc, c'est pour
pourquoi les
cela.
autorités internationales, et en particulier l'ONU, ne font pas plus fortement pression sur le Maroc?
Ah, c'est la question. Alors, parce que tout le monde, ils savent que le Maroc, il bénéficie de l'appui, de puissance qui est très connue au sein du Conseil de sécurité. Alors, donc, c'est pour cela. Alors,
Les,
la
les,
France, par
les, les, la
exemple, ou bien
France, par
les
exemple,
États-Unis,
la France, les
la France.
États-Unis soutiennent le Maroc.
Oui. Ben, c'est vrai.
Pour quelle raison?
Pour des raisons, pour la géopolitique, je sais pas, parce que le Maroc c'est un allié, il y a beaucoup de raisons, alors, pour eux.
Ben
Mais en fait,
justement,
c'est
ouais,
des
justement,
violations.
je l'ai. Enfin, je fais un peu le naïf exprès, quoi. Mais je comprends pas ces raisons. Bon, elles peuvent être économiques, elles peuvent être politiques. Mais enfin, disons, l'ONU, de ce point de vue-là, indépendamment du Conseil de sécurité, bon, l'ONU a quand même une existence. C'est quand même bizarre qu'il n'y ait pas une pression plus importante sur le Maroc. C'est vrai que vu de l'extérieur, ça paraît assez étrange. Pour avoir voyagé au Maroc, je sais que c'est loin. Évidemment, c'est une monarchie. Mais enfin, bon, c'est du point de vue même de la liberté d'expression, c'est vraiment une catastrophe. Et c'est un questionnement. Alors là, pour le coup, pas si naïf que ça. J'ai vraiment des questions sur les raisons du silence de la communauté internationale sur la gouvernance du Maroc, quoi. C'est vraiment bizarre. Tu disais les questions Oui. économiques, Alors, il y a
le
des questions
pillage.
économiques. Est-ce qu'on peut parler aussi de corruption qui s'étendrait jusqu'aux puissances occidentales, etc.?
À mon avis, je crois que aussi il y avait le problème de la corruption aussi, parce qu'au sein du Parlement européen, vous le savez aussi que le parquet belge est ouvert, je crois, une enquête sur la corruption. Bon, au sein des institutions, par exemple, européennes, je crois que le Maroc a aussi reconnu qu'il a été impliqué d'une manière ou d'autre pour faire pression sur, comment on dit, les decision makers au sein du Parlement européen ou bien des pays européens. Le Maroc aussi a utilisé le Pegasus contre des dirigeants aussi de haut niveau en Europe aussi.
Le Pegasus,
Donc,
c'est un logiciel de surveillance
surveillance
des téléphoniques.
de téléphonique, ouais, créé par la société israélienne NSO. Alors, pour faire. Donc, voilà, ce sont des moyens utilisés par le Maroc, en fait. Même que, voilà, il y a des dénonciations d'après plusieurs des associations et des instances aussi qui trouvent aussi le Maroc coupable dans ces affaires. Mais en même temps, on trouve que aussi, il y a beaucoup de pays, ils gardent la silence envers tout ce qui se passe ici pour le Maroc. Et je crois qu'ils craignent aussi la chute du régime du Maroc et les conséquences de ce qui se passe d'après. Donc voilà, ce sont des arguments, voilà, par exemple, mais c'est pas vrai.
Oui, bien sûr.
Donc, mais
Oh.
l'important, si.
Non.
Pardon.
Vas-y, enfin, la corruption
Oui, alors
et ce qu'on a
donc
appelé le Qatar Gate
c'est vrai
à l'Europe, c'était.
que alors pour essayer de pas trop tout mélanger, mais c'est vrai que quand on regarde l'Occident onusien, les grandes craintes concernant l'Afrique, bon, elles sont aujourd'hui de deux ordres. Ce qu'on craint aux Nations Unies en Afrique, c'est d'une part on va dire les révolutions d'inspiration marxiste, communiste, socialiste, etc. Le mot socialisme aux États-Unis, ça fait trembler. Et puis l'autre crainte, c'est évidemment l'islamisme. Donc effectivement, je crois que il me semble que la communauté internationale se dit que le statu quo dans le no man's land, en quelque sorte, c'est encore le moins mauvais moyen d'éviter les révolutions et socialistes et islamiques, vous pensez pas?
Mohamed, est-ce que tu nous entends?
Oui, maintenant, oui. Je t'entends maintenant.
D'accord.
Pardon?
La question d'Olivier, c'était est-ce que le statu quo n'est pas un moyen d'éviter d'autres révolutions communistes ou islamistes?
Ah, en fait, ouais,
De toute façon, la guerre a
le Sahara,
repris.
non, non, il n'y a pas. En fait, il n'y a pas de socialisme au Sahara occidental, si je suis parti, alors, parce
Oui, non, mais
que...
voilà, question, ouais.
Oui, le marxisme ou bien l'islamisme aussi, parce que le peuple sahraoui, il garde toujours donc un peuple qui lutte pour l'indépendance de son pays et tout, comme vous le savez, Olivier. Alors, parce que, donc, tout simplement, que tout le peuple sahraoui, maintenant, il s'engage et depuis 2020, alors, après la rupture des armes, disons que, donc, le seul moyen, le seul but, c'est la libération du Sahara occidental. Donc, voilà, c'est tout. Alors, il n'y a pas des islamistes, il n'y a pas d'extrémisme, il n'y a pas. Donc, il y a que la propagande. Alors,
Mais
donc,
c'est ce que j'avais envie d'entendre de votre bouche, Mohamed, c'est tout.
oui, parce que le statu quo est complexe et instable, en
Oui,
fait,
voilà, c'est
caractérisé
ça.
par. Oui, comme vous le savez, ouais, prolonger un passe politique pris d'essence, oui. Parce qu'il y a. Il y a une déception envers, en fait, par les Sahraouis, donc de deux parties dans le mur, dans le territoire occupé, et aussi dans les camps de réfugiés. Alors, vous imaginez qu'il y avait une déception dans la situation en général, et que les Sahraouis attendent ça fait longtemps. Donc, 5 décennies, c'est trop. C'est
Cinq
trop parce que
décennies,
j'ai.
oui.
Oui, parce que ouais, j'ai rencontré avec des envoyés spéciaux, depuis M. Christopher Ross jusqu'à le dernier. Alors, tout, ils s'accordent aussi que, en fait, la déception, ils ont vu, ils ont découvert que que le Sahraoui, en fait, il arrive à une amende, comme on dit, ou bien un niveau de la déception inaccessible.
Un niveau de déception terrible, inacceptable, c'est
oui,
ça
oui, complètement, oui. Oui, oui. D'accord, oui.
Oui, Et en fait, donc, ils ont réagi positivement. Alors, et le Maroc qui est contre toutes les envoyés spéciaux. Alors, le Maroc qui est contre aussi la médiation, contre le droit international, contre tous.
Oui,
donc, ils gardent le statu quo. Donc, le statu quo, ils servent le Maroc. Ils servent les alliés aussi du Maroc en même temps. Alors, je crois que maintenant, nous sommes devant une situation, bien, une concurrence géopolitique qui est très compliquée un petit peu dans la région. Mais elle se complique aussi plus après la rupture des armes aussi, et après l'utilisation
du Maroc. La rupture des armes, c'est la reprise de la guerre, c'est ça?
La reprise, la reprise
2020,
de la guerre.
La reprise de la 2020. Guerre.
Ouais. Parce qu'il y a une guerre maintenant. Il y a une guerre qui se déroule dans le Sahara occidental.
Merci beaucoup, Mohamed.
Merci. Merci beaucoup. Merci, Marie, Olivier. Merci beaucoup.
Merci à toi. C'est toi qu'il faut remercier de venir parler de tout ça à ce micro. Ça ne doit pas être super confortable.
Alors, cette onde curieuse est terminée. À venir à 13h, la rediffusion de Drôle de Dame. À 15h, le Telex. À 17h, la rediffusion de cette onde curieuse. À 18h, c'est Polémix et la voix off. À 20h, Salut à toi, c'est une rediffusion spéciale Crash Musette. À 21h, c'est Metal Zone et c'est une rediffusion aussi, c'est Metal Zone Glamour. Merci Olivier, merci Sylvain, merci Mohamed et à bientôt.
À bientôt, oui, sûrement.